En Europe, ça a commencé en Italie et puis ça s'est propagé comme la pandémie. On en voyait surgir des phrases ici et là qui résonnaient plus que jamais. D'abord le déni et puis l'exode. Pour certains, les interdits, les intox, la folie. On s'est surpris à s'y plonger. On est allé fouiller pour lire un autre extrait et puis un autre. Et puis le texte tout entier. C'est l'un des livres qu'on a le plus cité mais aussi le plus commandé en librairie ou ce qu'il en restait. Il paraît qu'on l'a même lu à plusieurs fois ce roman, à voix haute, comme pour exorciser. Après tout, il y est question de discours, de langage et de mots dont on use comme une logorée sans pouvoir s'en empêcher, mais qui au moment fort du malheur se sont un peu estompés. C'est écrit noir sur blanc. Au commencement des fléaux et lorsqu'ils sont terminés, on fait toujours un peu de rhétorique. Dans le premier cas, l'habitude n'est pas encore perdue et dans le second, elle est déjà revenue. C'est au moment du malheur qu'on s'habitue à la vérité, c'est-à-dire au silence. La plupart du temps, la lecture se fait en silence. C'est peut-être pour ça qu'elle a à voir avec la vérité, surtout quand le livre qu'on ouvre se nomme « La peste » et qu'il dit quelque chose à chaque page du malheur, du silence et de la vérité. « La peste », Albert Camus, 1947.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui conjugue Camus au présent, auteur, compositeur, interprète, metteur en scène, réalisateur. Sa rencontre avec celui qu'il appelle son frère a décidé de son destin. En cette période de trouble et décisive, il vient faire souffler les mots de la révolte, de la fraternité et de la paix. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Ce matin. Pourquoi est-ce qu'à votre avis on se tourne vers Camus aujourd'hui?
Camus, c'est une force stabilisatrice d'une certaine manière et aussi qui ne met aucune question de côté et qui a ce combat. C'est ce combat qui est finalement pour tous. Camus parle de tous et à tous. Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on a besoin d'être ensemble. On a besoin de figures qui nous permettent de faire peuple. Et Camus, c'est ça.
Vous pensez à quoi, précisément, quand vous dites « en ce moment, on a besoin de faire peuple », à quels événements?
Mais la réalité, c'est que ça fait un petit moment qu'on a besoin de faire peuple et d'être ensemble. Mais disons que là, on vit des événements particuliers. D'abord, on sort d'un moment particulier, le moment du corona, enfin toute cette période qu'on a vécue, c'était un moment où plus que jamais, ces valeurs qui sont les valeurs de Camus, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de lien, quand Camus dit être les siens, quand il parle des siens, en fait c'est nous tous. Et il y a cette idée-là, cette idée de dire qu'on peut, on doit faire un monde meilleur.
Il y a 4 ans, vous avez publié, Abdelmalik, un livre où vous dialoguez avec les mots d'Albert Camus, dans L'envers et l'endroit. Un texte qui, pour vous, a été fondateur. Faut peut-être nous raconter votre lecture de ce texte, et en particulier c'est de sa préface, quand vous étiez beaucoup plus jeune, en réalité.
Ouais, en fait, je devais avoir 12 ans, et j'ai lu, c'est L'envers et l'endroit, en fait, c'est de ce dont on parle. Et quand j'ai lu L'envers et l'endroit, d'une certaine, surtout cette préface, pour moi, ça a été comme un bréviaire, comme si moi j'avais des velléités, je voulais être artiste, etc. C'est comme si Camus était là devant moi et me disait « Écoute, petit frère, tu veux être artiste ? » Eh ben ça se passe comme ça. Et pour moi, c'était important, cette idée des miens, parce que j'ai grandi dans un endroit particulier, j'ai grandi en cité HLM, et c'était important de comprendre que cet endroit-là, c'était pas quelque chose qui allait me séparer des autres, mais je partais de là pour, d'une certaine manière, être en lien, en connexion avec tous.
Votre livre, des années plus tard, vous l'avez intitulé « Camus, l'art de la révolte ». À quel moment, Abdelmalik, la révolte devient-elle un art?
À partir du moment où on comprend que finalement, notre chef-d'œuvre par excellence, ça doit être notre vie. Et en ce sens-là, on est tous des artistes. Et la révolte de Camus, oui, révolte certes, mais elle est précédée d'un grand oui, d'un oui à la vie, d'un oui à la justice. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas une révolte pour dire non, simplement, mais on dit non à la haine, non à la bêtise, etc., etc. Donc, il y a ce préalable-là, il y a ce mouvement-là. Et de mon point de vue, ce mouvement-là est un mouvement artistique.
Il y a 1000 façons d'exprimer sa révolte. Il y a 1000 façons d'en avoir aussi des révoltes. Quand est-ce que vous avez trouvé la vôtre? Et quelle est-elle, votre révolte, Abdelmalik?
En réalité, à partir du moment où j'ai compris que notre destin, il était commun, qu'on était finalement, qu'on était sœurs et frères en humanité, qu'à partir du moment où on est frères et sœurs en humanité, on doit travailler à faire du lien et non point de la rupture.
Par les mots.
Par les mots. C'est c'est Camus qui dit cette chose qui moi a été hyper importante pour moi, qui dit mal nommer les choses c'est rajouter à la misère du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, on donne vie. Et donc il faut faire attention aux mots qu'on emploie d'une certaine manière. Et il faut comprendre ce pouvoir qu'on a avec les mots. Et encore une fois, c'est le nombre de mots, ou en tout cas la quantité de mots qu'on a à notre disposition, qui nous permet finalement d'exprimer notre monde intérieur au mieux. Et donc du coup, même si on est dans quelque chose d'une sorte de révolte, eh ben on est dans le dialogue. Parce que le réel danger, c'est quand il y a rupture de dialogue.
Mais il arrive que les mots restent sans effet.
Alors on n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que les mots, c'est à la fois une finalité, c'est un commencement, c'est-à-dire que c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que à un moment donné, les mots sont actualisés par des gestes, par des choses concrètes, par des actes. Et finalement, c'est en ce sens-là où les actes, tout d'un coup, parlent toujours plus fort que les mots à un moment donné.
Alors, on va les utiliser, les mots. S'il était en face de vous, Albert Camus, s'il pouvait vous entendre, qu'est-ce que vous lui diriez? Quels mots est-ce que vous lui confieriez?
Je lui dirais, on guillotine toujours à loisir quelque part. C'est ce qui me pousse à vous écrire. Je fus comme vous, et je vous cite, placé à mi-distance de la misère et du soleil. Je ne peux donc résister à la tentation de vous raconter notre époque, qui est à la fois semblable et tellement différente de la vôtre, ce qui n'est pas le moindre de ces paradoxes. Il arrive, quelquefois, qu'un drame individuel soit la force inspiratrice d'un élan collectif. Une certaine forme de pudeur me pousse ici à rester allusif, mais vous aurez compris qu'il s'agit toujours de respecter la mémoire de ceux parmi nous qui sont partis trop vite. Fidèle aux cités HLM, voyez-vous, jusqu'après la mort, être la parole de mon milieu sans jamais être une victime ni un bourreau, que leur injustice pousse aux extrêmes, toute proportion gardée, Abdelmalik comme votre humble écho, cher monsieur Albert Camus. Rien n'est en dehors du vécu, et ceux qui parlent ou écrivent sur nous auront beau parler ou écrire sur nous, ils ne comprendront rien tant qu'ils n'auront pas vu la mort de notre point de vue. C'est le moment d'être une femme, un homme de cœur et de raison. C'est le moment de l'héroïsme ou de la destruction. J'ai fait mon choix quand le besoin de paix est devenu semblable au besoin d'assistance qu'éprouve une personne en train de se noyer et qui appelle désespérément à l'aide. Vous avez donc en moi fait la paix avec Sartre comme un Jay-Z l'a fait avec Nas. Et si je refuse malgré tout absolument d'être un rescapé, c'est que je suis un ressuscité. Car il faut, comme Sartre donc, écrivant sur Genet, parler de résurrection et de rite initiatique. L'état spirituel est la manifestation de l'attirance des corps vers l'esprit, la preuve de la constance du mouvement vers le haut de gens comme moi que certains ne supportent qu'en bas. Ce n'est pas qu'une question d'égalité ou de droit, c'est une question de vie ou de mort sur des êtres qui, s'ils sont exécutés, n'auront pas nécessairement conscience de leur mal et continueront à subir de plus belle, accepteront de s'enfoncer dans cet élan mortifère, convaincus d'être vivants parce que toujours s'érigeant contre l'autre et finalement contre soi. Et voilà donc ce qu'on fait de nous autres, on nous mesure, on nous évalue, on nous pèse, on fait de nous des chiffres sans âme, sans existence réelle, hors de l'équation médiatique. C'est le paradoxe de celui qui est censé nous secourir alors qu'il ne peut se sauver lui-même. C'est le ridicule de celui qui a la clé et qui s'est enfermé lui-même. Mais l'ouverture et le dévoilement soudain de la réalité et donc la fin de l'illusion, c'est comme une boule de neige qu'on aurait jetée dans l'océan. L'ego n'a qu'une existence éphémère et illusoire si on le considère en lui-même coupé de son origine. De même, le peuple hétéroclite s'harmonise une fois réinventé le collectif. Voici donc venu le temps de nommer justement les choses. Voici donc venu le temps des mots réparateurs. Ceux qui disent le contraire de ceux qui se murmuraient parce qu'on portait des Nike Air Max et qu'on parlait à l'envers. On guillotine toujours à loisir quelque part. C'est ce qui m'a poussé à vous parler.
Qui sont-ils, les guillotinés, aujourd'hui, Abdelmalik?
C'est tous ceux, finalement, qui sont victimes des injustices, de manière générale. Et nous autres, et c'est ce à quoi Camus nous invite, on doit être du côté des victimes, toujours.
Comment leur rendre justice?
Leur rendre justice, c'est justement... Vous savez, la déesse justice, elle a un bandeau autour des yeux. Bien sûr, il y a l'épée, bien sûr, il y a la balance, mais elle a un bandeau autour des yeux. C'est signe, symbole d'impartialité. Et c'est comme ça qu'on peut rendre justice aux victimes.
Il n'y a pas d'impartialité aujourd'hui?
En tout cas, on se retrouve dans, 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 on se retrouve à un moment de notre histoire où il y a un décalage entre les merveilleuses valeurs que sont les nôtres, les valeurs républicaines, toute cette idée humaniste, universelle, ce qui est écrit dans le fronton de tous nos lieux publics, avec ce qui se passe dans le réel, avec ce qui se passe dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et il est temps finalement de réaxer ça, de faire en sorte que le réel soit en cohérence avec la philosophie qu'on a en commun.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous évoquez le besoin de paix, mais à quelles conditions la paix est-elle possible?
En réalité, s'il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir de paix, en réalité. Parce qu'on doit avoir tous le sentiment d'être entendu, le sentiment que notre mère patrie... qu'elle nous entende, qu'elle nous écoute, et que finalement celui qui doit actualiser ça, à savoir le père symbolique finalement qui est le président de la République et tous ceux pour qui on donne ce mandat-là, eh ben on a l'impression qu'ils nous entendent et qu'ils agissent en conséquence. Et des fois on a l'impression de ne pas être entendu. Et quand je dis on, je parle vraiment de toutes les victimes de manière générale, de tous ceux finalement qui sont de ce côté-là, qui sont les opprimés d'aujourd'hui.
Celle qui n'est jamais en paix dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Abdelmalik, c'est la culture et son actualité belliqueuse, revancharde et va-t'en guerre. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 9 juin?
Thank you, President Obama and Mrs. Obama, for including me in this very special day. And congratulations to the class of 2020. Real change has started with you.
Message royal, invité par le couple Obama à participer à une cérémonie virtuelle de félicitations aux jeunes diplômés du monde entier. La Queen Beyoncé a livré un discours puissant contre toutes les formes de sectarisme. Dans cette vidéo, vue plus de 16 millions de fois déjà, la diva dénonce le racisme et le sexisme dans la société et l'industrie musicale. Le vrai changement a commencé avec vous, dit-elle. Continuez à pousser, oubliez la peur, oubliez vos doutes et continuez à parier sur vous-même.
Je dors. Quand je suis éveillée, je rêve, je pense, je me souviens. Je n'ai mal nulle part. J'ai tout le temps.
Par-delà les nuages, la réalisatrice belge Marion Hansel s'est éteinte hier. Elle avait 71 ans, chef de file d'un cinéma belge intimiste et littéraire. Elle était l'autrice d'une quinzaine de films, parmi lesquels Les Noces barbares, adapté du roman de Yann Kefelek, Il Maestro avec Charles Aznavour, ou encore Dust, tiré du classique de J.M. Coetzee, qui lui valut en 1985 le Lion d'argent au Festival de Venise. Paix et respect. Quoi de neuf, Doc? Bugs Bunny, Titi et Gros Minet ou encore Daffy Duck, les personnages cultes des studios Looney Tunes, s'apprêtent à faire leur grand retour en France dans une nouvelle série de dessins animés. Mais ce qu'il y a de neuf, Doc, c'est que les armes à feu, comme nous le disait Sonia De Villard, seront bannies de leurs aventures. Elmer Fudd, ennemi juré de Bugs Bunny, va ainsi devoir abandonner son fusil pour une faux. Une décision plus adaptée aux sensibilités modernes, avancent les studios. That's all, folks.
Viens, petite fille, dans mon comic strip.
Chabam!
Très stylée, la jeune dessinatrice Lucie Kemener a reçu hier le premier prix BD France Culture des étudiants pour son beau roman graphique Baume du Tigre, paru aux éditions Delcourt, remis comme son nom l'indique par un jury composé d'étudiants. La récompense sacre un album en noir et blanc entièrement réalisé au crayon sur l'émancipation de quatre sœurs chinoises face au poids des traditions. Après le joli prix du livre Inter et remis hier à Anne Poli pour son roman Avant que j'oublie, voici deux bonnes raisons de retourner en librairie. On dit oui. Et Abdelmalik, invité de Boomerang ce matin pour parler d'aujourd'hui, à travers l'œuvre de Camus aussi, de l'art, de la culture, de quoi l'art et la culture vous ont-ils sauvé, vous? Parce que cette idée est omniprésente dans votre travail.
La réalité, c'est que l'art et la culture m'ont sauvé la vie, en réalité. Et quand je dis ça, c'est pas au sens figuré du terme. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un environnement compliqué, dur, où j'ai été, on va dire, confronté à la mort vite. Mais et jeune. Mais je me suis rendu compte que j'ai à un moment donné où je me suis retrouvé seul, j'ai eu des amis qui étaient aussi vivants que des amis de chair et de sang. Et ces amis s'appellent Camus, Sénèque, Césaire, etc. Et en ce sens-là, je me suis rendu compte que ma vie était plus grande que celle que j'imaginais. La vie de chacun est plus grande que celle qu'elle imagine, parce qu'on est en connexion les uns des autres à travers les âges, à travers les époques, qu'importe sa couleur de peau, son sexe, etc.
Mais c'est intéressant parce que ce pouvoir, cette fonction rédemptrice de l'art, c'est une très belle idée. Tout le monde semble d'accord là-dessus. Mais concrètement, aujourd'hui, on fait quoi pour les artistes, pour la culture? Quelle action pour permettre cette fonction-là?
D'abord, il faut les aider. Il faut leur donner des lieux où ils puissent s'exprimer, etc. Mais aussi, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'était l'idée, par exemple, lorsque j'ai monté récemment, j'ai adapté les Justes d'Albert Camus au Châtelet. Il y a cette idée de dire que on a toute une génération de d'artistes qui viennent de tous milieux socioculturels, qui ont toutes couleurs. On a un public qui a certes un public a l'impression que certains lieux ne sont pas faits pour eux, etc., etc. Comment on met tout ça en lien?
Oui.
Comment on met en lien finalement comment on transforme la culture ou la chose culturelle, le théâtre, le cinéma, comme à la fois évidemment des outils de divertissement, mais aussi des outils pédagogiques et aussi des outils qui permettent de faire peuple et qui montrent la richesse de la communauté nationale.
Ce plan pour la culture d'Emmanuel Macron, quels actes forts, quelles mesures concrètes est-ce que vous en attendez, vous?
Moi, j'en attends beaucoup, mais encore une fois, le fait déjà de considérer qu'il y a un plan, qu'il faut faire quelque chose, déjà c'est merveilleux, mais la réalité, c'est que ceux qui ont les clés, ce sont les artistes eux-mêmes, parce qu'ils ont des propositions. On est force de proposition. Moi, j'ai des idées. Il y a des choses que je veux faire. Il y a des plein d'artistes. Et il faut les entendre. Il faut les entendre et aider ces artistes-là à mettre en mouvement ces actions qui sont basées sur le réel.
C'est ça. À vous entendre, Abdelmalik, j'ai toujours l'impression que chez vous, la création répond à ce besoin profond d'aller vers les autres. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, les autres?
Ben, les autres, c'est nous, en fait. C'est-à-dire qu'aller vers les autres, c'est aller vers soi.
Et pour les autres, qu'est-ce que vous représentez? Alors peut-être, vous, comment est-ce que vous êtes perçu, à votre avis?
Ça dépend. Moi, je reçois beaucoup je rencontre beaucoup de gens et je partage avec beaucoup de gens et c'est fabuleux. Des fois, nous, on fait des petites choses comme ça. En tout cas, on a le sentiment que c'est des petites choses et on voit l'impact que ça a sur les êtres.
Pour autant, il a fallu se libérer du regard des autres.
Mais il faut se libérer du regard des autres. Se libérer du regard des autres, finalement, c'est cette idée, c'est ce travail rapport à la liberté, en réalité.
Mais c'est ça qui est compliqué. Comment, dans une société où on est toujours, et vous le dites, hein, inévitablement l'autre de quelqu'un, comment est-ce qu'on peut parvenir à dire nous?
Ben, en fait, je vais dire quelque chose qui peut-être peut choquer certains. Mais de mon point de vue, le seul moyen, c'est l'amour. On doit aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même. La réalité, c'est que tout ce qui est mis en mouvement par l'amour.
Alors qu'est-ce qui nous empêche de dire nous?
Ce qui nous empêche de dire nous, c'est ça. C'est-à-dire que on est d'abord, comment dire, bloqué par nos propres blessures, de vie. Et en fait, on ne dit pas nous parce qu'on est tourné sur nous-mêmes, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire tourné sur soi-même, sur sa souffrance, sur sa douleur, sur son histoire, etc. Alors que finalement, il s'agit de comprendre que tout ça, ne peut prendre sens ou on ne peut avancer véritablement que si on est en connexion avec l'autre. Et être en connexion avec l'autre, c'est le premier pas vers la guérison d'une certaine manière. Et ça, c'est important. D'une certaine manière, symboliquement, tous les êtres ensemble ne forment qu'un être.
C'est un titre qui parle de l'autre comme étranger, bouc émissaire aussi, que vous avez choisi de nous faire entendre, un titre a cappella, issu de votre dernier disque et spectacle, Le Jeune Noir à l'épée, un projet qui est né d'une collaboration avec le musée d'Orsay pour l'exposition Modèle Noir de Géricault à Matisse. Ce titre, il s'appelle « Eux ». Qui sont ceux que vous désignez ainsi?
Ben, vous verrez à la fin du titre, parce que je dis « Eux ». Qui sont ces fameux « Eux » ?
Alors on vous écoute.
Très bien.
Sur France Inter, Boomerang, on est ensemble avec qui? Avec « Eux ». Et avec vous.
Je m'appelle Abdelmalik. A-B-D-A-L-M-A-L-I-K. Abdelmalik. Mais mes amis m'appellent Malik. Vous savez, les deux pires ghettos sont la haine et la violence. Et ceux qui y vivent ont toutes les couleurs, toutes les apparences, hommes, femmes, pas nécessairement du même milieu social. Je, vous, nous, les connaissons. Ils disent toujours « eux ». Et précisément, ce morceau s'intitule « Eux ». Eux, 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 eux. C'est pas moi, c'est lui. Il pointe du doigt. C'est pas moi, c'est à cause d'eux. Eux, 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 eux. Wesh, Darwin, on est tous des grands singes, non? Eux, 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 eux. Les trop riches, eux, 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 eux. Les trop pauvres, eux, 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 eux. Mnemo, E, U, X, CAC 40, ça dit quoi les infos? Les infos, c'est ma cam, ça dit quoi? Les infos, on continue. Les infos, c'est ma cam, ça dit quoi? Les infos, on continue. C'est le chaos dehors. La France pleure, frère. La haine pleut. Ils répondent, presse les billets, presse les billets, presse les billets, presse les billets. Fernand Reynaud, toi-même, tu sais, c'est eux. Rappelle-toi la fureur. Rappelle-toi la fureur à l'affiche au Grand Rex. Souviens-toi le fureur qui criait eux. Eux, 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 eux. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui en chœur, c'est repris dans des stades olympiques, eux, Partout en Europe, c'est le cri de ralliement de tous les fachos. Toi-même, tu sais, Balotelli, qu'on est tous des hommes, nous aussi, et que le cash, tout le cash du monde, n'empêche pas de souffrir. Mais c'est qui, eux? Eux, c'est qui, eux? Ceux qui parlent encore de race, qui te disent de te barrer de chez eux, ou ceux qui veulent tout cramer parce qu'ils savent pas si à la fin du mois, avec leurs gamins, ils auront de quoi bouffer? Mais eux, qui ça, eux? La France? L'Italie? Eux, qui ça? L'Espagne? L'Allemagne? Eux, qui ça? L'Europe? Ils t'ont dit qu'ils peuvent pas accueillir toute la misère du monde, mais combien de femmes violées? D'enfants noyés? Combien d'hommes par l'esclavage mutilés? Mais eux, peut-être qu'avec le temps, Léo Ferré, toi-même tu sais, peut-être qu'avec le temps, eux, ils comprendront qu'on a en partage l'humanité, mais on n'a pas le temps. Regarde le climat, mais on a le temps, on n'a pas le temps. Regarde le climat, faut parler, faut écouter, faut dialoguer, faut se mettre à la place des autres, comme l'abbé Pierre, toi-même tu sais. Alléluia, 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 on marchera sur l'eau. Ils retrouveront la vue, ceux qui peuvent pas nous voir, ni en peinture, ni en photo, ni en vrai, ni en faux. La haine, la violence, sans oublier le racisme et tout ce qui se finit en isme, sont pas des réponses. Pense. Sache que eux, c'est nous, eux, c'est nous.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Nous qui l'écoutons toujours avec attention, il faut dire que quand on lui parle, il vous écoute lui aussi avec une intensité qui est troublante. Avec lui, chaque mot compte, la sobriété qui n'empêche pas la générosité, casquette, polo, blouson, masque, FFP2. Abdelmalik, invité de Boomerang ce matin pour parler de mots, mais aussi de voix. Parce que ce qui frappe chez vous, particulièrement ce matin, dans le dépouillement de cette a cappella, ce sont autant les mots que vous prononcez que la voix qui les porte. Qu'est-ce que c'est pour vous une voix?
La voix, c'est l'essentiel. C'est finalement ce qui reste à la fin. Et c'est ce qui permet vibratoirement de nous connecter les uns aux autres. C'est l'enfant qui pleure et sa maman qui lui dit quelque chose.
Tout le monde a une voix?
Tout le monde a une voix.
Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez la vôtre et quelle était ce qu'elle est?
À partir du moment où lorsque j'ai parlé et il y a eu une conséquence, il s'est passé quelque chose. C'est que votre voix, la mienne, celle des auditeurs, tout le monde. En réalité, il y a un impact. Et il n'y a pas de grand ou de petit impact, d'une certaine manière, parce que c'est la pierre à l'édifice. C'est notre voix. Et ma voix, plus votre voix, plus la voix d'un tel et un tel et un tel. Et ben ensemble, on fait le monde. C'est la voix du monde.
N'empêche, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour qu'une voix apparaisse, qu'elle naisse même, qu'elle se développe aussi, qu'elle puisse se faire entendre? Il faut les autres, ceux dont vous parlez.
Il faut les autres. Il faut les autres. Et encore une fois, au risque d'être redondant, il faut aimer. Il faut s'aimer. Et c'est le seul chemin qu'on peut prendre. Finalement, cette guerre ou cette révolte camusienne dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est une guerre face à notre ignorance, notre bêtise, etc. C'est une guerre qui nous pacifie finalement et in fine pacifie notre rapport à l'autre.
Vous y revenez toujours,
hein, toujours,
à cette lecture.
Et oui,
à voix haute.
À
de
voix
Camus.
Haute, toujours, toujours. J'ai justement en parlant de ça, mon amie Juliette Gréco qui est ma que je considère comme ma marraine vraiment et souvent quand je la vois ces derniers temps, et ben elle veut que je lui fasse la lecture et je lis Camus et c'est merveilleux.
Vous lisez quel texte de Camus?
Oh, ça dépend. Il y a quelques temps, je lui ai relu la Peste et j'ai relu L'Étranger. Enfin, je lui lis ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie. Et à chaque fois, elle me dit, moi, la seule personne que je vais entendre qui me lise, c'est toi, tu es mon lecteur. Et je dis, c'est merveilleux.
Vous lisez debout,
assis, ça dépend, mais je suis très très expressif comme ça dans ma manière de je vis la chose, la voix me porte.
Qu'est-ce qui se passe lorsque cette voix s'élève sur une scène de théâtre, Abdelmalik?
Ben, il se passe, c'est particulier, c'est quelque chose, parce que tout d'un coup, si la voix est bien placée, eh ben, en fait, il n'y a plus une personne sur scène et le public, il y a une sorte de communion, on est tous ensemble, en fait. Et on écoute, il n'y a pas quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui parle, Il y a un dialogue qui se passe, il y a un mouvement qui se passe. Et quand cette magie advient, c'est fabuleux.
Parce que vous êtes de plus en plus investi hein, dans un travail de metteur en scène, je pense au Juste, ouais. notamment que vous mentionniez, ou au Jeune Noir à l'épée plus récemment. Qu'est-ce que c'est la scène d'un théâtre? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
C'est le lieu où tout s'origine. C'est l'agora, c'est cet endroit où...
C'est un lieu de dialogue en
c'est
fait.
C'est le lieu de dialogue par excellence.
Ce qui fait du théâtre l'un des rouages de notre démocratie pour vous?
Totalement. J'ai presque envie de dire quelque part, ça peut même en être le cœur battant. Parce qu'il y a cette idée de, à la fois, bien sûr, il y a le réel, bien sûr, la difficulté du réel, mais en même temps, comment transcender les choses? Comment, d'une certaine manière, être dans une démarche presque cathartique des choses? Comment l'art, toute une sorte de distance saine qui s'installe pour finalement être capable, in fine, d'apporter des solutions.
Et puis l'actualisation dont vous parliez Totalement. Régulièrement Totalement. Ici à ce micro, la scène de théâtre, elle fait entendre des voix, mais elle donne aussi à voir des corps. Ouais. Quel regard est-ce que vous portez sur votre propre corps? Qu'est-ce qu'il représente, ce corps que vous mettez en scène, dans lequel vous faites vibrer des mots?
Mais c'est mon être au monde, c'est des mots en mouvement en réalité. Le corps, c'est cette espèce de tension, ce qui me finalement, c'est ce qui me relie concrètement, j'ai envie de dire aux autres, c'est le corps. Et donc c'est la voix qui prend forme, qui prend vie.
Si je vous parle de corps, c'est parce qu'on en a déjà parlé, c'est un enjeu central dans la compréhension du mouvement ouais. mondial qui a lieu depuis l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Je pense notamment à l'essai remarquable de Leonard Amiano, Marianne et le garçon noir, qui traitait ouais. des violences policières et qui parlait justement du corps ouais. de l'homme noir. Ce corps, Abdelmalik, ce corps noir assassiné, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit?
Ben, il nous dit que à un moment donné de notre histoire collective, il y a eu une sorte de rupture où à partir d'un moment, il y a eu une sorte de hiérarchisation où à un moment donné tel corps représenté était le symbole de finalement de la puissance et de la domination et l'autre l'inverse finalement.
Cette histoire, elle vous habite?
Elle m'habite, oui et non, parce que le problème c'est que il faut pas se laisser habiter par ça au risque de reproduire ce qu'on déteste. Finalement, d'être à l'inverse du combat qu'on mène. Ce qui est important, c'est de dire, OK, il y a eu une idéologie qui a été construite. Et notre travail, c'est de déconstruire cette idéologie. Et déconstruire cette idéologie, évidemment, on va aussi passer par le corps, évidemment, on va dire, mais pour se rapprocher d'un autre corps. Et ce corps-là, c'est le corps de l'humanité dans son entièreté. C'est la diversité des corps qui, ensemble, ne font qu'un corps. C'est-à-dire, encore une fois, bien sûr, différents corps, bien sûr, différentes communautés. Mais la communauté nationale, la communauté humaine dans son ensemble, toujours chercher ce groupe qui nous lie et qui fait corps ensemble. Et je pense que si on réfléchit pas de cette manière, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des situations qui peuvent basculer, notamment en France, vers quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation. C'est moi contre l'autre, c'est nous contre l'autre. Et c'est ça qui peut mettre en germe une guerre civile. C'est ça qui peut mettre en germe que le corps se déchire. Et nous, on n'est pas là pour déchirer, mais pour recoudre, pour faire du lien.
Pour terminer cette émission, Abdelmalik, vous nous avez écrit un texte. Un texte que j'aimerais que vous nous disiez, si vous le voulez bien.
On parle beaucoup du monde d'après, le monde d'après, chères sœurs, chers frères, en humanité. Je vous parle au nom de la compassion, de la justice et de notre vérité. Le monde d'après a lieu maintenant, même si le temps est aux pleurs. Nous ne sommes qu'au seuil de l'horreur qui nous attend vraiment si on ne se remet pas en cause en tant que civilisation, si on ne quitte pas la culture de l'indifférence, de la violence, du consumérisme, si on n'arme pas la sagesse, si on n'arme pas l'amour, si on ne donne pas une âme à la mondialisation. Systématiquement muselé, on a fatalement abandonné le chapitre et donné notre voix à n'importe quel lobby agroalimentaire ou n'importe quel conseil d'administration. Chères sœurs, chers frères en humanité, je vous interpelle au nom de la compassion, de la justice et de la vérité. Peut-on encore légiférer en tenant réellement compte de l'humain, de l'écologie et pas simplement du profit? Peut-on encore réapprendre à être heureux en réduisant, en remodelant nos modes de vie? A-t-on toujours en nous la force de croire que nous autres consommateurs, nous autres citoyens avons tous les pouvoirs pour changer nos habitudes et réenchanter l'Europe et sa démocratie? Comment crée-t-on collectivement du juste au XXIe siècle? Comment relève-t-on les défis lorsque que les réponses des experts ne suffisent plus, lorsqu'on sait que la finance écrase tout, maintenant que l'économie a tout pris. Chères sœurs, chers frères en humanité, je vous affirme au nom de la compassion, de notre justice et de vos vérités que l'humain doit toujours précéder la marchandise, que l'antiquité gréco-latine nous a légué la sagesse suivante. Lorsque l'économie devient religion, s'éteignent les plus sophistiqués des civilisations, que la politique est toujours une affaire de choix difficile, écorne de tout volontarisme. Il ne peut y avoir de salut aussi. Toute critique émanant de la société civile est toujours utile si l'Europe veut retrouver la justesse dans sa gestion, que l'action de voir émerger un puissant et authentique savoir collectif, d'où l'importance de faire réellement participer dans le monde qui y vient. Tous et pas seulement les spécialistes a pour nom délibération. Chères sœurs, chers frères en humanité, je m'acquitte de ce message au nom de la compassion, de la justice et de la vérité. Il s'agit de nous réapproprier en tant que peuple de la chose démocratique dans la quête d'un beau, mystérieusement doté d'une haute valeur en soi. C'est dans ce cheminement concret que nous décidons de réinventer notre activité d'artiste. Il s'agit de faire entendre raison aux opinions européennes et de s'adresser à chacune d'elles en lui rappelant que si l'Europe se veut une communauté de droit véritable, elle ne peut dans un même mouvement faire si fréquemment souffrir le droit en question. Il s'agit de comprendre dans nos chairs que ce qui se joue, ce n'est pas de simples chiffres, mais la vie des gens. Il y a un problème d'humanité énorme dans nos sociétés et seules les associations, oui, semblent avoir pris pleine conscience de cette problématique, mais est-ce suffisant, chères sœurs, chers frères en humanité? Écoutons donc à quoi nous invite la compassion, la justice et la vérité. Nous n'allons plus simplement vivre ensemble, mais faire ensemble, et ainsi retrouver les chemins confisqués par nos manquements, nos peurs, nos ignorances, nos égoïsmes et nos visibles et souterraines violences. Nous allons donner à ce continent la beauté de ses couleurs, de ses visages, de ses pleurs et de ses sourires en écrivant un nouveau récit qui verra s'embrasser le vieux et le neuf, veillera à ce que le vénérable et le jeune fassent alliance. Nous allons apprendre de nos ruines, construire sur nos ruines, continuer ensemble à porter nos rêves de démocratie, d'écologie et de justice en les incarnant une bonne fois pour toutes avant qu'on ne crève tous pour de bon, gisant dans la crasse de nos arrogances. Chers frères, chères sœurs en humanité, je vous parle seulement au nom de la compassion, de la justice et de la vérité, la nôtre, à tous.
Faisons ensemble. Abdelmalik, merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission qui sera une si belle introduction aussi à celle que nous ferons demain aux côtés de Robert Badinter. Je rappelle que Le Jeune Noir à l'épée, votre récit poétique, est publié aux éditions Flammarion. On espère avoir bientôt l'occasion de le redécouvrir sur scène.